Et nous allons commencer cette conférence intitulée « L'épouse de Dieu, l'invité surprise ». L'épouse de Dieu, l'invité surprise. Depuis que j'ai annoncé cette conférence, il m'est arrivé de me heurter à des réactions d'étonnement qui confirment le bien fondé du sous-titre « L'invité surprise ». Certains de mes auditeurs se demandaient bien quelle pouvait être l'épouse de Dieu, du Dieu des Juifs et des Chrétiens. Chez les Grecs, on sait que Zeus a une épouse qui s'appelle Héra, hein, ou chez les Romains, Jupiter a une épouse qui est Junon. Et on sait également que Baal, le dieu des Cananéens et des Phéniciens, qui était un petit peu le rival du dieu des Juifs, avait une épouse, Ishtar ou Astarté. Et par ailleurs, hein, de nombreuses découvertes archéologiques montrent qu'à certaines périodes de leur histoire, autour du 8e siècle, avant Jésus-Christ en particulier, certains des fils d'Israël, pas tous, n'hésitaient pas à associer à Adonai, à Yahvé, le dieu d'Israël, une déesse, Ashra, qui était supposée être son épouse, sur le modèle du couple divin Baal et Astarté. Donc on trouve effectivement des vestiges archéologiques de ces cultes où, à côté du dieu traditionnel d'Israël, il y a également une déesse, Ashra. Et il arrivait, alors il faut savoir que tout cela se situe dans un contexte de corruption du culte yahviste, puisque on trouve également des vestiges de culte à Bélial, celui qu'on connaît parfois sous le nom de Bélial, qui est Baal-Yah, c'est-à-dire à la fois Baal et Yahvé conçu comme un seul et même Dieu. Voilà. Autrement dit, vous avez des cultes syncrétiques qui se développent au 8e siècle, avant Jésus-Christ, et ceci ne doit absolument pas troubler le croyant orthodoxe, pour qui Dieu n'a absolument pas d'épouse en ce sens-là, hein, le Dieu des Juifs et des Chrétiens n'est pas marié à une déesse. Non, je suis désolé, je vais vous décevoir. Les livres des rois et les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, justement, dénoncent très fermement toutes ces dérives, hein, syncrétiques entre Dieu et Baal. Tout cela est vu comme un culte diabolique, satanique, démoniaque, épouvantable. Et de même, sur le même plan, hein, les prophètes de l'Ancien Testament œuvrent pour la destruction du culte des Asherah, culte des Asherah qui était soit l'adoration de la déesse Asherah, soit l'adoration de pieux sacrés. Il y avait des pieux sacrés, voilà, qui étaient des symboles de cette déesse, en même temps que des symboles phalliques probablement. Bon, et c'est ainsi que, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, le roi Josias, qui est vraiment le bon roi de la Bible, le roi vraiment fidèle à la loi de Moïse, le roi qui restaure un culte purifié envers l'unique Dieu d'Israël et de Juda, eh bien, Josias engage d'énormes réformes dans les années 630 à peu près avant Jésus-Christ. Il fait détruire les Asherah, il détruit également les statues de Baal que ses prédécesseurs avaient introduites dans le temple de Jérusalem, hein, et il met tout cela au feu. Voilà, il met tout cela au feu. Et ce n'est pas du tout en ce sens-là qu'il faut entendre qu'il y aurait une épouse de Dieu, voilà, du Dieu d'Israël, du vrai Dieu, celui qu'il ne faut pas nommer, hein, qu'on nomme parfois Yahvé dans la Bible de Jérusalem et qu'on devrait en fait dénommer à travers des périphrases comme Adonai pour ne pas violer le commandement du Décalogue qui interdit de nommer Dieu par son nom. Donc quoi qu'il en soit de ce culte d'Ashra que je n'évoquerai plus, du moins si je l'évoquerai quand même, mais bon, il y a néanmoins tout à fait un sens à parler d'une épouse de Dieu dans la Bible et à se questionner sur son identité et sur la relation qui l'unit à son époux. Alors pour le fidèle catholique, en fait, il y a quelque chose d'assez clair, qui est quand même assez bien répandu dans les catéchismes, hein, et dont les gens qui lisent la Bible ont connaissance, c'est que le Christ, Dieu fait homme, a une épouse. Le Christ, Dieu fait homme, a une épouse, et cette épouse, c'est l'Église. Voilà. L'épouse du Christ, c'est l'Église. L'épouse du Christ, c'est l'Église. Et d'ailleurs, comme on apprend au début de la Genèse que les deux époux, comme le premier homme et la première femme, quand ils s'unissent, font une seule chair, l'idée que l'Église est l'épouse du Christ permet ensuite de justifier l'idée que l'Église soit également le corps du Christ. Les deux images sont complémentaires et liées à une certaine idée aussi de l'union conjugale. Il existe d'autres figures du Christ, hein, d'autres figures de l'Église. L'Église, c'est également le bercail, c'est-à-dire l'enclos à brebis, etc. Donc il y a plein d'autres figures de l'Église, hein, ça peut être l'arche, ça peut être beaucoup de choses. Bon. Ce qui est moins connu catholique, même pratiquant, mais bien connu par contre des théologiens, hein, qui ne fait pas de doute, hein, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a déjà une analogie nuptiale, une analogie donc conjugale, nuptiale, pour penser le rapport de Dieu à son épouse étant ici le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme Israël est quand même le nom d'un homme, un des patriarches, c'est le deuxième nom de Jacob, plus on dira plutôt, plus généralement, Jérusalem. Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, ou du royaume unifié de Juda et Israël, valant ici pour l'ensemble du peuple élu, du peuple des fils d'Israël. Donc ici, l'épouse de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est clairement Jérusalem, et au-delà de Jérusalem, le peuple élu. Autrement dit, la relation de Dieu à Israël va être pensée sur le modèle d'une relation conjugale. Alors, cette manière de penser l'alliance entre Dieu et son peuple, car la relation qu'unit Dieu à son peuple est une alliance, le terme d'alliance étant une manière de désigner le mariage est une alliance, c'est-à-dire un don total de soi et réciproque, qui est fait librement, mais qui ensuite est source d'obligation, et un don total de soi qui a été fait librement est source d'obligation, et un don total de soi qui, nous allons le voir, implique une exigence de fidélité. Et oui, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, y a l'exigence de fidélité, mais la fidélité n'est pas toujours vécue. Hein, je vois que certains lèvent les yeux au ciel en disant « ah ah bon. ». Et bien justement, nous allons voir que la relation conjugale entre Dieu et son peuple est assez orageuse. Voilà, elle est assez orageuse. Et donc c'est une relation conjugale qui n'est pas toujours paisible. Voilà. Alors, la double identification de l'épouse de Dieu, donc l'épouse du Christ étant l'Église, l'épouse de Dieu de l'Ancien Testament étant le peuple d'Israël, cette double identification pose plusieurs problèmes que je vais traiter tout à l'heure. Il y a un premier problème qui est à la fois, je dirais, éthique, politique et sociétal. C'est-à-dire que si Dieu est l'époux du peuple élu, si le Christ est l'époux de l'Église, comme le Christ est également le chef de l'Église, comme Dieu vaut mieux que son peuple, on pense que cette analogie entérine une vision assez patriarcale, hein, de la relation conjugale. Le mari est le chef, la femme obéit. Alors on peut trouver ça très bien quand on est de sexe masculin et de plus conservateur, mais on comprend que cette idée suscite une certaine méfiance vers ceux qui estiment que c'est une bonne chose que l'égalité de l'homme et de la femme soit reconnue, y compris dans le mariage. Donc on peut se dire, après tout, ces religions juives, chrétiennes, sont des religions très réactionnaires. Alors on peut s'en réjouir, hein, on peut trouver ça très bien. On peut trouver ça tellement mal qu'on se détourne du judaïsme et du christianisme. On dit, je n'ai rien à apprendre d'un système institutionnel destiné à opprimer les femmes qui arrivent très bien, etc. Et puis on peut aussi relever une contradiction. C'est que saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit qu'au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église parvenue à sa perfection, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Les juifs ne sont pas d'un côté le peuple élu et les autres les grecs seraient réprouvés. C'est-à-dire que Dieu est venu sauver tous les hommes. Il n'y a plus ni maître ni esclave. Aux yeux de Dieu, l'esclave ne vaut pas mieux que le maître. Il n'y a plus ni homme ni femme. Au sens où la femme... Il ne s'agit pas d'annuler la différence sexuelle, on va le voir. Mais au sens où la femme n'a pas à être considérée comme soumise à une domination émanant de l'homme. Et d'ailleurs, c'est un retour à la condition humaine avant le péché. D'où vient la domination masculine ? C'est, dit le chapitre 3 de la Genèse, ça vient de quoi ? C'est une conséquence du péché originel. Si Jésus est venu racheter tous les êtres humains du péché, et du péché originel en particulier, c'est donc que, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, cette domination masculine doit disparaître. Voilà. Alors je dis ça à ma femme quand elle fait le repassage, le ménage. Bon, mais voilà, donc j'exploite mon épouse consciencieusement, mais je reconnais que ce n'est pas chrétien. Alors ce premier point politique sociétal donc mérite d'être interrogé. Est-ce que cette analogie, quand même, Dieu, le peuple élu, le Christ, l'Église, est-ce qu'elle entérine insidieusement, au fond, une vision très patriarcale de la relation conjugale ? Et comment concilier cela avec tout ce qui, dans l'Évangile, apparaît comme affirmant nettement l'égalité des hommes et des femmes ? Bon. Deuxième point. Il y a un deuxième point, un deuxième problème théologique. Il y a Dieu et le peuple d'Israël, il y a le Christ et l'Église. Ah. Est-ce que ça veut dire que Dieu a répudié son ancienne épouse pour en prendre une autre ? Est-ce que le peuple d'Israël, d'un point de vue chrétien, peut se penser encore comme épouse de Dieu ? Ce qui oblige à, si vous voulez, penser précisément ce qu'est le peuple d'Israël après la mort et la résurrection du Christ et la Pentecôte. Bien. Donc il s'agit de comprendre ce que engage cette analogie nuptiale pour penser aujourd'hui la relation de Dieu au peuple juif. Deuxième problème. Troisième problème, il y a un troisième problème qui est éthique et qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parce que, je vais vous faire une confidence, il ne faut jamais faire de confidence en public, mais, parce que ce n'est pas du tout des confidences, mais je vais quand même faire comme si je vous faisais une confidence. Donc ce n'est pas une vraie confidence. C'est quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, j'avais un aumônier dans mon lycée qui avait trouvé un moyen très astucieux pour nous inciter à lire la Bible. Comment inciter un adolescent à lire la Bible ? Il nous disait, dans ma jeunesse, les prêtres étaient très réticents à pousser les jeunes à lire la Bible, parce que, voyez-vous, beaucoup de gens considèrent que c'est une sorte de livre un peu pornographique. Il y a plein de violence, il y a aussi beaucoup de sexe. Alors évidemment, apprenant cela, je me suis précipité pour voir si c'était vrai. D'accord ? Je voulais m'instruire, quoi. Je voulais savoir voilà, quoi en penser. Bon. C'est vrai. Lisez la Bible. Voilà. Pas pornographique, enfin un peu, il y a de la pornographie. On va lire tout à l'heure des textes pornographiques. Oui, les textes pornographiques sont des textes qui parlent de prostitution. Donc on va lire des textes qui parlent de prostitution. Voilà. Et même en termes assez crus et plus crus dans le texte d'origine que dans les traductions, qui sont un peu obligés quand même d'adoucir les choses, d'arrondir un peu les angles. Hein. Bon. Voyez-vous, il y a de la pornographie, il y a aussi de l'érotisme. Alors j'espère qu'on aura le temps de lire des textes érotiques. Hein. De vrais textes érotiques, des derniers textes qui parlent de l'amour dans sa dimension sensuelle. Et donc la question éthique que j'aimerais aborder, c'est jusqu'où pousser le symbolisme sexuel concernant l'interprétation de cette fameuse métaphore nuptiale ? Jusqu'où la pousser ? Voilà. parce que on peut trouver que parfois ça va un peu trop loin. Voilà. Bon. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout traiter. On a quand même un programme assez copieux. Donc avant de traiter ces trois problèmes, j'aimerais reprendre avec vous, hein, parcourir avec vous la Bible pour voir où l'on rencontre cette métaphore nuptiale, cette analogie nuptiale plus précisément, hein, le terme d'analogie me paraît plus juste, et l'analogie nuptiale, on va la rencontrer tout spécialement chez les prophètes. Chez les prophètes. Et ce n'est pas du tout une analogie qui arrive en passant occasionnellement, elle est centrale, elle est décisive pour comprendre toute la littérature prophétique de l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose de central. De quoi est-il question dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament ? Il est question d'une alliance. Le terme que nous traduisons par testament signifie en fait alliance. Et une forme d'alliance particulière, c'est justement le mariage. Ce don libre de deux êtres l'un envers l'autre, don qui va être source d'obligation et qui permet de cheminer ensemble dans une relation d'amour. Ce que Dieu a proposé à son peuple Israël, c'est exactement cela. Il lui a proposé de s'engager librement à le suivre pour cheminer dans une relation d'amour. Cette relation d'amour est porteuse d'exigences et la première exigence, c'est la fidélité. Et donc au moment où se réalise l'alliance, au mont Sinaï, lorsque Moïse transmet les tables de la loi, d'accord, Dieu précise, attention, je suis un Dieu jaloux. Alors on ne comprend pas, en français on ne sait plus ce que veut dire le terme jalousie. En français, le français contemporain est devenu, c'est une langue qui s'appauvrit de plus en plus sous l'influence de journalistes incompétents, de ministres de l'éducation nationale, incompétents, il y en a beaucoup. On dirait qu'ils sont choisis pour ça, d'ailleurs. Donc le bilan, c'est que les Français perdent leur langue. Ils commencent par perdre le latin, donc on perd le latin, après on perd le français. Enfin bon, là, tout arrive. Petite vengeance mesquine contre des réformes en cours. Alors, revenons à notre sujet. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament propose une alliance, voilà, au mont Sinaï. Il dit qu'il est un Dieu jaloux, et jaloux, ça ne veut pas du tout dire envieux. Hein, l'envie, c'est quand vous voulez posséder ce que quelqu'un d'autre a de mieux que vous, et que vous mettez à détester quelque chose, quelqu'un, vous mettez à détester quelqu'un qui est mieux que vous ou a quelque chose de mieux que vous. Voilà. Donc, l'envie, c'est diabolique. C'est toujours mal. Voilà. Vous êtes envieux. Bien. Vous en voulez à une personne parce qu'elle vous est supérieure en quelque chose, ça c'est de l'envie. La jalousie, c'est complètement différent. Vous êtes dans une relation exclusive avec quelqu'un. Et ce quelqu'un se détourne de vous. Là est la jalousie. La jalousie, c'est l'exigence d'une relation exclusive. C'est l'exigence de l'exclusivité. Rien à voir avec l'envie. La jalousie de Dieu, c'est une jalousie conjugale. C'est la jalousie d'un mari qui veut être le seul que son peuple honore comme un Dieu. De même que dans une relation conjugale, le mari veut que sa femme couche exclusivement avec lui. Et la femme veut que son mari couche exclusivement avec elle. Et c'est légitime. Voilà, il y a une exclusivité. Bon. Donc la jalousie va de pair avec l'idée d'élection. Être l'élu d'eux. Voilà. Et la jalousie est légitime. Dans certains cas, il peut y avoir des jalousies pathologiques, il y a des jalousies qui sont anormales, parce que les enfants n'ont pas à être jaloux de leurs frères et sœurs, ils doivent se réjouir que leurs parents aiment aussi leurs frères et sœurs. Oui, donc il y a des jalousies anormales, mais il y a une jalousie normale là où il y a une relation d'alliance qui fait qu'il y a élection et élection mutuelle, comme c'est le cas dans un mariage. Donc le Dieu jaloux, c'est le Dieu dont on va penser la jalousie et aussi l'amour, nous allons le voir, à travers cette analogie nuptiale. Alors le premier prophète dans l'ordre chronologique qui développe cette analogie nuptiale, c'est à ma connaissance Osée. Osée. Alors pour revenir à la Bible, vous savez qu'il y a des prophètes qui n'ont pas écrit, comme Élie et Élisée. Là, avec Élie et Élisée, on est à peu près au 9e siècle avant notre ère, dans les années 800-850 avant notre ère à peu près. Et puis, au 8e siècle, à partir du 8e siècle avant notre ère, nous commençons à rencontrer des prophètes qui... qui écrivent, qui ont laissé une trace écrite. Donc il y a trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui sont grands parce qu'ils ont laissé un vaste corpus. Et il y a 12 petits prophètes qui sont petits parce qu'ils ont laissé des livres plus petits. Voilà. Mais en fait, leur grandeur n'a rien à voir avec leur importance, leur charisme. Ce sont tous des prophètes qui prononcent la parole de Dieu. Donc que la parole de Dieu tienne en une page ou qu'elle tienne en 150 pages, c'est toujours la parole de Dieu. Voilà. Et elle est donc toujours d'une valeur infinie. Donc le prophète, c'est celui qui va nous faire entendre la parole de Dieu, nous faire entendre un enseignement qui vient de Dieu. Donc le premier des petits prophètes, le plus ancien, qui est aussi le plus ancien de tous les prophètes, puisque tous les autres lui sont postérieurs, c'est Osée. Alors, je ne suis pas allé vérifier de près, mais en tout cas, c'est celui qu'on met en tête des 12 petits prophètes, et il est antérieur à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Voilà. Premier par ancienneté, il est contemporain, alors il est prophète dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, prophète dans le royaume du Nord. Vous savez qu'il y a deux royaumes à partir de la fin du règne de Salomon, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est le royaume dont les rois sont des descendants du roi David. Et l'on sait que c'est dans la descendance du roi David que naîtra le Messie. Et c'est une dynastie qui se propage de manière continue. C'est la même dynastie qui règne. Le royaume du Nord a été créé par un usurpateur, mais désigné par un prophète, Jéroboam. Suite pour sanctionner les fautes commises par Salomon à la fin de son règne. Et depuis ce schisme, il y a donc deux royaumes. Mais dans le royaume du Nord, fondé par un usurpateur, il y a de nombreuses dynasties, puisqu'il y a de multiples usurpations, il y a sans cesse des coups d'État, etc. Alors parmi les différents usurpateurs, il y en a un qui est particulièrement important, qui date du temps d'Élisée, c'est le roi Jéhu. Le roi Jéhu a été désigné par Élisée, le prophète Élisée, donc très grand prophète, hein, pour supprimer le culte de Baal dans le royaume du Nord, culte de Baal que déjà Élie avait commencé à combattre, ceux qui sont venus à la conférence sur Élie s'en souviennent. Bon. Et Jéhu va donc mettre en œuvre de manière sanglante certaines réformes, en poussant parfois le zèle un peu trop loin, dans certains domaines, c'est-à-dire qu'il massacre plus qu'on lui demande. Parmi les boulettes qu'il fait, par exemple, il fait assassiner presque toute la famille du roi de Juda. C'est ennuyeux parce que le Messie, devant être un descendant du roi de Juda, s'il massacre tous les descendants du roi de Juda, il ne pourra plus y avoir de Messie. C'est une belle boulette. Jéhu va trop loin parfois dans ses moyens et il ne va pas assez loin dans ses buts. C'est-à-dire que Jéhu, lui, supprime le culte de Baal, mais il ne supprime pas les corruptions du culte de Yahvé, le dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne supprime pas les veaux d'or qu'il y avait dans les sanctuaires du royaume du Nord. C'est-à-dire qu'on adorait Yahvé sous la figure d'un veau d'or. Donc on adore le vrai Dieu, mais sous une figure construite par l'homme. Là, Jéhu ne va pas si loin. Alors, il a été prédit du temps d'Élisée que, en raison des fautes de Jéhu, sa dynastie tomberait au bout de 4 générations. Et là, osé, donc, et contemporain de la génération de, des petits-fils, arrière-petits-fils de Jéhu. Et il va donc annoncer, les malheurs dont va être accablé le peuple d'Israël du fait de ces infidélités qui se sont multipliées depuis Jéhu. C'est-à-dire que depuis Jéhu, le peuple d'Israël non seulement a persévéré dans cette corruption du peuple de Yahvé qui est l'adoration du culte des veaux d'or, mais progressivement, sous l'influence de ses rois, il a rétabli l'adoration des Baals et d'Astarté. C'est malin. Bon, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir ce que c'est que l'adoration des Baals et des Astartés. Baal, le dieu Baal, les Astartés. Baal, au départ, c'est un nom commun qui signifie le mari. Le dieu Baal est un dieu de la fécondité qui favorise les récoltes et les semailles. C'est pour ça que dans une culture agraire, on est très attaché à ce genre de dieu. C'est un dieu qui va, en quelque sorte, jouer le rôle d'un bon engrais hein, pour favoriser les futures moissons. Donc, on hésite. Alors, associé au culte de Baal, il y a tout un rituel pour favoriser la fécondation du sol. Baal est supposé ensemencer le sol. L'épouse de Baal, c'est la terre. Donc le dieu Baal est censé s'accoupler à la terre, l'ensemencer, la féconder. Et tout cela pour le mieux. Et cette croyance s'accompagne de rites qui sont des rites de prostitution sacrée. C'est-à-dire que dans les temples de Baal, bien sûr, il y a des prostituées sacrées et bien, les adorateurs de Baal viennent jouir hein, des services de ces prostituées sacrées, tout étant décidé à favoriser la fécondité, en particulier la fécondité du sol. Voilà, autrement dit, quand on va à la messe, on va aux putes, c'est un peu la même chose, voilà, sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, parce que, non mais pas la messe où vous allez le dimanche madame j'ai une drôle de tête, non c'est ce qui tient lieu de messe dans le culte de Baal et c'était le gros mot qui vous choquait, je suis désolé. Bon alors quand on va au culte on va pratiquer, voilà ce qui fait d'ailleurs contribuer au succès de la chose et Osée va reprendre et subvertir cette idée d'un dieu qui est époux. Baal, ça veut dire le mari. Et il va dire au peuple d'Israël, il y a un Dieu qui est aussi un mari et qui n'a rien à voir avec ton Baal, à toi. Vous voyez ? Il reprend l'idée d'un Dieu époux, mais il va la subvertir, la transformer. Ton vrai Dieu, c'est Yahvé, Adonai, le Dieu de l'Alliance du Sinaï. Voilà ton vrai Dieu. Et toi, tu es son épouse. Mais tu es une épouse infidèle. Vous voyez le raisonnement ? Et cette épouse infidèle, en quoi est-ce qu'elle est infidèle ? Elle est infidèle en ce qu'elle est, elle se prostitue. Donc la première figure de l'épouse, c'est la figure de l'épouse comme adultère et prostituée. Ça commence bien. Dieu a une épouse, il se trouve que cette épouse est une adultère et une prostituée. Passage, Dieu est cocu. Et ça vous fait rire. Si vous vous moquez des cocus, vous moquez implicitement de Dieu. C'est contraire à la morale judéo-chrétienne. Bien. Alors, Israël est l'épouse de Dieu, Israël est une prostituée, et que va-t-il arriver ? Eh bien, Osée va l'exprimer tout d'abord sous la forme d'un machal. Qu'est-ce que c'est qu'un machal ? Un machal, c'est le terme qui a été traduit en grec par parabole. Un machal, c'est non pas une fable, c'est pas une allégorie essentiellement. Il y a des machals dits, parlés, et il y a également des machals signifiés par des actes. Qu'est-ce que c'est qu'un machal ? Un machal, c'est une parole ou un geste qui a une valeur prophétique et qui exprime analogiquement un mystère concernant Dieu et l'action de Dieu dans le monde. Donc c'est un geste, aussi bien qu'une parole, qui exprime analogiquement quelque chose sur Dieu et sur son action dans le monde. pour ça qu'il ne faut pas réduire les paraboles de l'évangile à des fables moralisatrices. On n'est pas complètement à côté du sujet. Il y a une dimension éthique dans les paraboles de l'évangile, mais il y a d'abord l'affirmation de ce qu'est la relation de Dieu au monde, de Dieu à l'homme, de Dieu à son roi, de Dieu au royaume, etc. Là, Osée va produire un machal en payant de sa personne. Ça va être un acte, et cet acte, ça va être de se marier. Mais de se marier avec une épouse, de telle sorte que la relation du prophète à son épouse sera semblable à la relation de Dieu à son peuple. Et donc, qui, Osée, va-t-il épouser ? Une prostituée. Parole du Seigneur, parole d'Adonai, qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Akazas et d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alors ce Jéroboam-là, c'est Jéroboam 2, c'est pas Jéroboam 1er, hein, c'est un numéro 2. Commencement de ce qu'Adonai a dit par Osée. Adonai dit à Osée, « Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant d'Adonai. Il alla donc prendre Gomer, fille de Diblaïm, qui conçut et lui enfanta un fils. Adonai lui dit, « Appelle-le du nom de Yisréel, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Yisréel, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. » Yisréel, hein, c'est une plaine qui se trouve, enfin la plaine de Yisréel, elle se trouve au nord de la Galilée. C'est une grande plaine qui se trouve entre le lac de Tibériade et la mer Méditerranée. Et c'est dans cette plaine que Jéhu a, en quelque sorte, est parvenu au pouvoir en vainquant ses ennemis. Mais Jéhu a également commis un certain nombre de fautes. Et c'est donc une sorte de châtiment s'abattant sur la maison de Jéhu qu'annonce ici la naissance de cet enfant nommé Yisréel. Bien. Il adviendra en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Yisréel. Elle conçut encore et enfanta une fille. Adonai lui dit, appelle-la du nom de Lo-Ruhama, car désormais je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël pour lui pardonner encore. Lo-Ruhama, ça veut dire, en gros, je ne t'aime plus. Voilà. Bon, pas aimé. Voilà. C'est pas aimé. Mais de la maison de Juda, j'aurai pitié, donc la maison de Juda rivale, et je les sauverai par Adonai leur Dieu, je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les guerres, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Bon. Donc la maison de Juda un peu privilégiée, parce que justement, c'est la maison de la lignée légitime, celle des descendants de David, de qui doit venir le Messie. Elle sauvera Lo-Ruhama, conçut encore et enfanta un fils. Adonai dit, appelle-le du nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple. Lo-Ammi, ça veut dire pas mon peuple. Et moi, je n'existe pas pour vous. Autrement dit, il s'agit d'une sorte d'acte de répudiation. Donc le paradoxe de l'introduction de l'analogie nuptiale, c'est que l'analogie nuptiale est introduite dans la littérature prophétique à l'occasion, non pas pour dire que le peuple d'Israël est l'épouse de Dieu, mais pour dire que, d'une certaine manière qu'il ne l'est plus. On ne savait pas encore vraiment que le peuple d'Israël était une épouse. C'est une épouse indigne, adultère, c'est une épouse indigne, prostituée, et en plus, on est en train de lui signifier que c'est fini, quoi. Ça. Épouse bonne pour la répudiation. Ça commence bien. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que le contexte nous explique, ce langage de l'union conjugale est emprunté par dérision au culte de Baal, puisque Baal, c'est le mari. Autrement dit, puisque tu prétends chercher un mari, en fait, tu es en train de perdre ton vrai mari. Et ce n'est pas fini. Dites à vos frères, mon peuple, donc Lo-Ammi, enfin non, c'est pas mon peuple justement, dites à vos frères, mon peuple et à vos sœurs, celles dont on a pitié, dites-leur ceci, donc c'est un deuxième oracle, intentez procès à votre mère. Intentez-lui procès, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Curieux. Vous voyez, c'est le premier texte qui parle d'union conjugale pour dire que c'est fini. Qu'elle écarte de sa face ses prostitutions et d'autres ses seins, ses adultères. Oui. Sinon, je la déshabillerai toute nue et la mettrai comme au jour de sa naissance. Ça, c'est très intéressant. La sanction de, la pro, de l'épouse prostituée, ça va être d'être mise à nu. Elle va être mise à nu. Le terme de mise à nu est ambigu. Une des traductions possibles est le grec apocalypsis, dévoilement. Un des sens du terme dévoilement, révélation, c'est mise à nu de la putain, pour l'humilier. C'est un des sens. Il y a un autre sens, justement, de dévoilement, ôter le voile, qui est beaucoup plus plaisant, et que nous allons voir plus tard. Le dévoilement, c'est également le geste du jeune époux, dans la nuit de noces, qui enlève le voile de l'épousée. Donc c'est le geste de la rencontre des deux jeunes époux, voilà, dans la nuit de noces. Et là aussi, c'est un des sens d'apocalypsis. Apocalypse. Dévoilement, révélation. Là, le dévoilement, il se manifeste d'abord comme mise à nu de la prostituée. Oui, de ces enfants, je n'aurai pas pitié, car ce sont des enfants de prostitution. Si vous cherchez des insultes contre le peuple d'Israël, le meilleur texte pour ça, c'est la Bible. Là, vous êtes en train de lire « Les fils d'Israël sont des fils de pute ». En bon français, je traduis en français correct. Hein, voilà. Il faut avoir un langage châtié. Il faut savoir que l'hébreu ne distingue pas, si vous voulez, la langue, ce qui serait une langue pure et une langue vulgaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des mots, des gros mots, et de l'autre un langage châtié. C'est une langue en quelque sorte uniforme de ce point de vue-là. Donc extrêmement crue, sans être non plus réellement vulgaire. Ce qui fait qu'on pourrait se permettre de traduire de manière très très vulgaire ce que je dis si on le traduisait tout à fait littéralement, sauf que ça serait gênant en français à cause des connotations. Mais moi j'aime bien la version un petit peu canaille. Bon, ça réveille. Alors oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée car elle a dit « Je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Vous remarquez ici, enfin non. On marque rien. C'est pourquoi je vais obstruer ses chemins avec des ronces, je l'entourerai d'une barrière pour qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. C'est intéressant parce que vous avez cherché, trouvé. En revanche, Dieu, c'est celui qu'elle trouvera si elle le cherche. Qui cherche, trouve. Mais là, les amants, elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors elle dira... Je veux retourner vers mon premier mari car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Autrement dit, Dieu va faire en sorte que la prostituée court après ses amants, qu'elle soit mise à nu, et c'est seulement quand elle sera allée au bout de son malheur, au bout de son humiliation, qu'alors elle pourra se repentir. Autrement dit, cette répudiation n'est pas une répudiation définitive. C'est une répudiation, si je puis dire, temporaire, destinée à rendre possible une réconciliation ultérieure. Ça va ? Le but étant que la femme séparée de son mari puisse aller au bout de ses erreurs, de ses fautes, et par là puisse devenir réceptive au repentir. Un peu comme dans la parabole de l'enfant prodigue, hein, le père laisse le fils partir au loin, il le laisse aller à sa faute et il attend son retour. Là, c'est la même chose. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Alors là, c'est intéressant. Le froment, le blé, le vin, l'huile. Très intéressant. Parce que c'est là qu'on va trouver les espèces des sacrements, plus tard, dans l'Église catholique. Vous avez eu l'eau qui était mentionnée plus tôt, mais là, ce qui est intéressant, c'est que le froment et le vin pour l'Eucharistie, l'huile, c'est pour la confirmation, c'est aussi l'huile, on l'a aussi au baptême, etc. Bon. Donc ici, il y a une dimension, si vous voulez, très intéressante, qu'on va retrouver dans d'autres passages de la Bible. Enfin, bon. Quand vous avez en tout cas le vin, le froment, l'huile, c'est jamais anodin. C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Puis Aujourd'hui, je dévoilerai son infamie aux yeux de ses amants et personne ne la délivrera de ma main. Donc là, c'est, si je puis dire, la méthode de soin par l'abandon. Je ferai toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses solennités. Je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait « Ils sont le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai un allié et la bête sauvage les dévorera. Je la châtirai pour les jours de Baal. » D'accord ? Pour les jours des Baal, donc les pseudo-maris, auxquels elle brûlait de l'encens quand elle se parait de son anneau et de son collier, et qu'elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait. Oracle d'Adonai. Donc là, c'est la sanction. Mais le but de cette sanction, c'est ce qui va suivre ensuite. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Donc quand elle sera au fond de sa dérédiction, là, Dieu va la séduire. Je la conduirai au désert. Le désert, c'est donc le dénuement. Mais le désert, c'est aussi, en hébreu, midbar, la même racine que la parole. Le désert, c'est le lieu où l'on entend la parole. Où Dieu se révèle-t-il ? Dans le désert. Où Dieu s'est-il révélé à Moïse ? Au mont Sinaï, qui se trouve au cœur du désert du Sinaï. Où est-ce que Dieu se révèle intimement à Élie ? Là aussi, dans le désert. Où est-ce que Jean-Baptiste va prêcher ? Dans le désert. Le désert, où est-ce que Jésus se retire pour se préparer à sa prédication, pour jeûner, etc., dans le désert. Le désert, c'est le lieu où l'homme se met à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le lieu le plus apte pour être à l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre à entendre que la parole de Dieu. Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d'Achor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle d'Adonai, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'écarterai de sa bouche les noms de Baal et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles. Donc les Baal, eux, ils vont se retrouver assez mal, etc. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays et eux, je les ferai reposer en sécurité. Et verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Adonai. Tu connaîtras Adonai. Connaître, ayant un sens particulier biblique, connaître désignant l'acte sexuel lorsqu'il est légitime dans une relation conjugale. Autrement dit, on ne connaît jamais une prostituée, on s'unit à elle, mais en revanche, l'époux connaît son épouse dans le cadre d'une union légitime. Vous ne trouverez pas normalement dans la Bible, il connut quelqu'un d'autre que sa femme. Normalement, je peux me tromper. Mais en principe, c'est réservé à cela. Tu connaîtras Adonai, donc là, ça renvoie à quelque chose de très mystérieux, qui serait l'analogue de l'union sexuelle dans le cadre, cette fois, de la relation du peuple à Israël. Qu'est-ce qui en serait l'analogue ? Voilà. Un acte qui permet de donner à Dieu un fils. Car ce qui a été prédit, c'est aussi qu'il y aurait un descendant qui serait un fils. Donc là, c'est une prophétie messianique. Il viendra en ce jour-là que je répondrai oracle d'Adonai, je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche. Vous retrouvez encore les trois, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Donc quand il y aura le peuple d'Israël aura connu Yahvé, alors la terre répondra au froment, au vin nouveau, à l'huile fraîche, et eux répondront à Israël. Là, je ne sais pas interpréter. Cela dit, Israël, c'est en Galilée. Intéressant. Je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'Ourouama, je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, et lui dira, mon Dieu. Donc ses enfants maudits seront cette fois reconnus comme étant peuple de Dieu, etc. Donc eux-mêmes se retrouveront rehaussés. Autrement dit, Osée nous apprend que l'épouse de Dieu est une prostituée, que cette épouse de Dieu est une adultère également, évidemment, et que cette épouse de Dieu est une prostituée à qui Dieu veut pardonner ses fautes, qu'il va laisser aller jusqu'au bout de ses fautes pour ensuite la reconquérir et ensuite pour se donner totalement à elle. Donc derrière le langage du châtiment, il y a une intention de miséricorde qui va au-delà d'ailleurs de ce qu'il y avait avant. Car cette fois, tu connaîtras Adonai. Donc tu ne l'as pas vraiment connu avant. Bien. Première image. Nous étions là au 8e siècle avant Jésus-Christ, avant la chute du royaume du Nord, avant que le royaume du Nord ne soit écrasé par les forces assyriennes, complètement dispersé, que toute la population soit réduite en esclavage, de telle sorte que sur les 12 tribus d'Israël, il n'en reste plus que 2. Voilà, c'est les tribus de Juda et Benjamin dans le royaume du Sud. La plus petite tribu, qui avait été pratiquement anéantie autrefois, et la plus grosse tribu, mais enfin, qui fait quand même moins que les 10 autres manquantes. Et ce royaume de Juda, vous voyez, lui aussi va avoir un sort tragique, puisque finalement, les fils d'Israël du Sud, ceux que plus tard on appellera les Juifs, les descendants de Juda, finalement ne valent pas mieux que leurs frères du royaume du Nord. Et donc en 596 avant Jésus-Christ, se produit une première déportation, c'est-à-dire que les Babyloniens prennent la ville de Jérusalem et envoient en esclavage les élites, c'est-à-dire la cour, le roi, la famille royale, et également des prêtres. Donc, on peut dire l'aristocratie et le haut sacerdoce. Bon, les cadres. C'était l'accomplissement des prophéties de Jérémie en particulier. Parmi les déportés, il y en a un qui s'appelle Ézéchiel, qui est tout jeune, et qui est de famille sacerdotale. Et lui aussi va avoir des visions, et il va voir et prophétiser que ce n'est pas fini. Il va se produire autre chose. C'est-à-dire que ça n'a pas suffi. La punition n'a pas suffi. Il va en avoir une bien plus terrible, 11 ans plus tard, qui cette fois va se conclure par la déportation de tout le peuple d'Israël, tout le peuple de Jérusalem, tout le monde, quelle que soit la classe sociale, et l'anéantissement du temple de Jérusalem. Alors, l'anéantissement du temple de Jérusalem, je ne sais pas si vous avez conscience de la gravité de la chose. Le temple de Jérusalem, d'abord, c'est l'unique lieu de culte légitime. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, autour du prophète Jérémie, on a redécouvert le Deutéronome, le 5e livre de la loi de Moïse, qui dit qu'il doit y avoir un seul lieu de culte. Et ce lieu de culte va s'identifier au temple de Jérusalem, qui, où Dieu a établi sa demeure sous le royaume de Salomon. Quand je dis que Dieu a établi sa demeure, il faut le prendre littéralement. Les Israélites croient à la présence réelle de Dieu dans le temple de Jérusalem, comme les catholiques, lorsqu'ils sont, catholiques, ils croient tout ce que enseigne l'Église, croient à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est le lieu de la présence réelle de Dieu sur terre. Et ce n'est pas tout. Le temple, c'est le seul lieu où l'on peut légitimement offrir des sacrifices à Dieu. Alors, il y a toutes sortes de sacrifices. On peut faire toutes sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices particulièrement importants qui sont destinés à se purifier de ses péchés. Ce qui veut dire que s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de possibilité de se faire pardonner ses péchés. Et le temple est anéanti. Plus de temple. Alors, certes, déjà Jérémie avait prophétisé que Jérusalem chuterait et que 70 ans plus tard, eh bien, il y aurait une restauration. Et Ézéchiel va confirmer cela. Mais il va annoncer la chute du temple, pas seulement la déportation, la chute du temple. Ça, c'est terrible. Alors Ézéchiel, lui, va reprendre la thématique d'Osée dans un des plus beaux chapitres de toute la Bible, un des plus beaux textes Je ne vais pas avoir le temps de vous le lire, parce que sinon je n'aurai pas le temps de faire la suite. C'est Ézéchiel chapitre 16, mais enfin bon, c'est un des plus beaux textes de la littérature mondiale. Ézéchiel, c'est flamboyant. Hein. Si vous n'aimez pas la Bible, mais que vous aimez les littératures, vous aimez quand même Ézéchiel, hein, parce que ça flamboie, hein, ça a de la gueule. C'est la littérature baroque, hein, c'est plein d'images partout, des métaphores, ça fourmille dans tous les sens. Enfin, c'est très baroque. Alors, Isaïe, par exemple, c'est plus classique. Hein. Ézéchiel, c'est baroque. Jérémie, c'est particulier, au sens où Jérémie, c'est grave et triste. Voilà. Bon. Ézéchiel, c'est flamboyant. Voilà. La parole du Seigneur, la parole d'Adonai me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Alors, c'est très intéressant, parce que Ézéchiel va introduire par rapport à Osée une distinction entre Jérusalem, Samarie et Sodome. Chez Osée, il n'est question que du peuple d'Israël. Là, il est question plus spécifiquement de Jérusalem. C'est très intéressant. C'est très intéressant. L'épouse de Dieu, ça va être plus spécialement Jérusalem, c'est-à-dire pas forcément tout le peuple d'Israël. Pourquoi ? Alors, on pourrait penser qu'il s'agit là d'une métonymie. Ça va être Jérusalem pour l'ensemble du peuple d'Israël, des fils d'Israël. C'est possible. On peut penser que la capitale, ici, est mise en avant. Oui, mais Jérusalem, ce n'est pas simplement ça. Jérusalem a deux particularités très importantes. D'abord, c'est le siège du temple. Donc, dire Jérusalem, c'est désigner le peuple d'Israël en tant qu'il est... Il accueille dans son temple la présence réelle de Dieu. Et deuxièmement, dire Jérusalem plutôt que Israël dans son ensemble, ou une figure féminine représentant Israël, c'est aussi indiquer, deuxième aspect de Jérusalem, c'est là où règne le descendant de David, là où règne la dynastie dont doit sortir le fils de Dieu, héritier de David. Donc si Jérusalem est l'épouse, c'est dans le sens où aussi elle est la mère du fils de Dieu, et donc de l'héritier de Dieu. Donc il y a là tout cet enjeu autour de Jérusalem. Parce que là, c'est ce qui est très intéressant, c'est que en 721 avant Jésus-Christ, 140 ans avant à peu près, 130 ans avant, Samarie a été réduite en poussière, la capitale du Nord. Les tribus perdues d'Israël ont disparu. Alors il en est resté quelques vestiges qui sont venus dans le Sud, mais la plupart d'Israélites ont été réduits en esclavage. Les esclaves, un peuple ne résiste pas à l'esclavage. Une fois qu'un peuple est réduit en esclavage, il est anéanti, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il est anéanti physiquement, il est anéanti comme peuple. Et là, lorsque le peuple de Juda est réduit en esclavage, ça veut dire qu'il risque de disparaître totalement. Vous voyez l'enjeu. Donc, Ézéchiel, il reprend l'analogie, mais là, il y a un enjeu particulier. C'est-à-dire que quand Samarie a été détruite, ça ne remettait pas en question radicalement l'alliance qui pouvait se perpétuer dans le royaume du Sud, en Juda, avec le temple, et avec la dynastie d'où doit sortir le Messie, le Sauveur. Mais là, quand c'est Jérusalem précisément qui risque la destruction, ce qui risque la destruction, c'est le signe de la présence réelle de Dieu sur terre, et c'est l'existence de cette dynastie royale dont doit sortir le Fils de Dieu, l'héritier de Dieu, le Messie. Vous voyez ? Donc là, il y a une dramatique supplémentaire par rapport à Osée. Bon, alors revenons à la parole du Seigneur, la parole d'Adonai me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur Adonai à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite et ta mère hittite. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une belle insulte. J'aime bien. Ça castagne. Ça casse, comme dit l'autre. Ça casse. Bien. Tu es du pays de Canaan. Canaan, donc le peuple soumis à la malédiction de Canaan, la fameuse malédiction qui remonte au temps de Noé. Ce peuple dont toute la descendance est compromise par justement l'existence de relations fondamentalement incestueuses depuis Noé. Donc, où, si vous voulez, le passage de génération en génération est foncièrement vicié, inquiétant. Ton père était amorite et ta mère hittite. Les amorites, les hittites font partie, sont deux des sept peuples qui avaient été voués à l'anathème par le Deutéronome et par le livre de Josué. Et on sait bien que les anathèmes n'ont pas été observés du temps de Josué, qui remarque malicieusement qu'il avait été promis que plein de... Vous savez, j'ai déjà commenté la chose, mais enfin je le répète, hein, dans le livre de Josué, le peuple d'Israël va avoir un destin très heureux s'il arrive à se purifier de toute influence des peuples qui occupaient le sol de Canaan. Donc il faut les anéantir. D'accord ? Et il y a un avertissement. Si un jour Israël tombe dans les mêmes péchés que ses prédécesseurs, lui aussi subira, Israël subira le même traitement. Et toute l'ironie, ce qui fait que moi je ris quand je lis le livre de Josué, j'ai un humour un peu noir, hein. Non. Mais en fait toute l'ironie du livre de Josué, c'est qu'on va découvrir que pour plein de raisons, les anathèmes ne seront pas complètement accomplis. Le ver va rester dans le fruit. Non seulement ils ne sont pas complètement accomplis, mais en fait, du coup, il va y avoir des mélanges. Et les fils d'Israël vont descendre non seulement d'Israël, mais également des Cananéens. Ça va ? Parmi les ancêtres du Christ, il y a une personnalité très importante. Rahab, prostituée, vivant à Jéricho. Rahab, non seulement elle obtient que sa vie soit épargnée parce qu'elle a sauvé les émissaires que Josué avait envoyés en espionnage dans les villes, mais elle va être l'ancêtre du Christ. Elle va épouser un fils de Judas qui ensuite va être un ancêtre de David, donc un ancêtre du Christ. C'est-à-dire que la condition de la venue au monde un jour du Christ, ça va être justement le fait que ces anathèmes ne vont pas être totalement réalisés. Puisque parmi les ancêtres du Christ, il y a justement une cananéenne et de plus une prostituée, comme par hasard. Comme par hasard. Le Christ va s'inscrire dans la filiation d'une prostituée. C'est très important. Alors là, pour le moment, nous avons une prostituée qui est Jérusalem, fille de Cananéen, fille d'Amorite et de Hittite. Eh bien oui, c'est comme ça. Et donc là, Ézéchiel va retracer symboliquement toute l'histoire du peuple d'Israël. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon. On ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de linge. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Je passais près de toi et je te vis te débattant dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis. Autrement dit, Dieu a été le père adoptif d'un enfant abandonné, Jérusalem. Et je te fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge adulte, à l'âge nubile, à l'âge de te marier. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Elle a oublié de s'habiller. Alors je passais près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Étendre le pan du manteau, ça veut dire quelque chose de précis, c'est du langage érotique. De même que Boaz, quand il va se marier avec Ruth, si vous connaissez le livre de Ruth, hein, il étend sur elle le pan de son manteau. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais si vous en faisiez un film, eh bien, ce ne serait pas une scène à montrer aux enfants. Je m'engageais par serment, je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Adonai, et tu fus à moi. Ça s'appelle le mariage. Deux personnes s'unissent par un pacte et... Ce pacte implique une union sexuelle destinée à être féconde. Je te baignais dans l'eau, je lavais le sang qui te couvrait, je toignis d'huile, je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie, je te parais de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Donc vous avez ici, il va satisfaire tous les besoins alimentaires. Il va réparer, je te baignais dans l'eau, laver, on va laver, oindre. Donc tout cela, ce sont des soins à la personne, au corps de la personne. Ensuite, il y a les vêtements. Vêtir celle qui était nue. Voyez. Ensuite, vous avez les bijoux, ornés, rendre séduisante, aimable, désirable. Voyez. Progression par degré. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. On est dans une histoire symbolique. Ce qui va commencer à causer problème, c'est la royauté. La royauté est incitation au péché dans la Bible. Ce sont les rois qui, aux yeux des prophètes ont été à l'origine de la chute du peuple. Tu fus renommé parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur Adonai. Donc, premier épisode, l'enfance, cet enfant abandonné. Deuxième épisode, la croissance, la jeune fille qui devient l'épouse. Et troisième épisode, la vie conjugale qui commence à se, comment dire, déliter, à se corrompre. Mais tu t'es infatué de ta beauté, tu as profité de ta renommée pour te prostituer, et voilà. Tu as prodigué tes débauches à tout venant, tu as pris de tes vêtements pour t'en faire des hauts lieux, aux riches couleurs, et tu t'y es prostitué. Alors les hauts lieux, hein, ce sont les lieux de culte idolâtrique. Donc dans un haut lieu, vous pouvez avoir des hauts lieux où on fait des sacrifices à des idoles. Donc là, vous imaginez, donc vous avez des autels et puis on égorge des poulets ou je ne sais quoi. Vous avez des hauts lieux avec lieux de prostitution. Hein, là, ça fait partie du culte des deux Baals. Vous avez des hauts lieux où on pratique des sacrifices humains sur des enfants. Hein, on livre ses enfants à Moloch. Tout ça, ça a beaucoup d'allure. Hein, ça, le sang coule. Enfin, ça, voilà. Donc c'est ça, ces fameux hauts lieux. On y pratique la prostitution sacrée et éventuellement des sacrifices humains. Tu as pris tes parures d'or et d'argent, donc ensuite il va y avoir des images d'hommes, j'abrège. Et il est arrivé, oracle du Seigneur Adonai, que tu as pris tes fils et tes filles, verset 20, que tu m'avais enfanté et que tu lui leur as sacrifié pour qu'elles s'en nourrissent. Était-ce donc trop peu que ta prostitution ? Donc non seulement tu t'es prostituée, mais tu as égorgé tes propres enfants. Tu as égorgé mes fils et tu les as livrés pour les faire passer par le feu en leur honneur. Il y avait effectivement des sacrifices humains sur les enfants, en usage chez les Cananéens, chez les Phéniciens, et également chez les Hébreux, sous l'influence des cultes phéniciens. Et dans toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais toute nue, te débattant dans ton sang. Et pour comble de méchanceté, malheur, malheur, à toi, oracle du Seigneur, tu t'es bâti un tertre, tu t'es fait une hauteur sous toutes les places, à l'entrée de chaque chemin, tu t'es bâti une hauteur pour y souiller ta beauté et livrer ton corps à tout venant, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué chez les Égyptiens, tes voisins au corps puissant. Alors là, on se dit que les traducteurs aiment les périphrases. Si on traduit le texte littéralement, c'est beaucoup plus amusant, c'est tes voisins au grand membre, au singulier. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais on voit de quoi il s'agit. Les Égyptiens avaient une certaine réputation dans l'Antiquité qui correspond à la réputation qu'ont certains noirs d'être particulièrement bien dimensionnés, certaines parties de leur corps. Je ne suis pas allé vérifier ce... Voilà. Bon. Tu as multiplié, donc les Égyptiens avaient aussi cette réputation dans l'Antiquité, tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Alors là, ce qui est nouveau, c'est pour mériter. C'est pas seulement qu'elle s'est prostituée, c'est qu'elle l'a fait exprès pour irriter Adonai. Voilà. Pour mériter. Et plus que nécessaire. Ce n'est pas une petite faute par hasard, il y a vraiment un défi. Un défi. Alors, et voici que j'ai levé la main contre toi. Donc Dieu a commencé à appliquer certains châtiments pour la remettre sur le droit chemin, mais elle s'est obstinée. Elle s'est obstinée. Vous voyez ? Comme ton cœur était faible, alors verset 30, j'aime beaucoup ce passage, comme ton cœur était faible, oracle du Seigneur Adonai, en commettant toutes ces actions dignes d'une véritable prostituée, lorsque tu te bâtissais un tertre à l'entrée de chaque chemin, que tu faisais une hauteur sous toutes les places en méprisant le salaire, tu n'étais pas comme la prostituée, sous-entendez, comme la prostituée ordinaire. La femme adultère, au lieu de son mari, accueille les étrangers. À toutes les prostituées, on donne un cadeau. Mais c'était toi qui donnais des cadeaux à tous tes amants. Donc vous voyez, c'est même pas par intérêt, on était dans le défi, et à la fin, il y a une espèce de goût pour la luxure. Vous voyez, on va jusqu'au bout de cette déréliction, de cette turpitude. Et qu'il leur a offert des présents pour que de tous côtés, ils viennent à toi dans tes prostitutions. Autrement dit, le peuple d'Israël s'est livré à de multiples prostitutions. Il a pris goût à l'idolâtrie. Il s'est complètement détourné de son Dieu. Pour toi, ce fut le contraire des autres femmes dans tes prostitutions. Nul ne courait après toi. C'est toi qui payais et l'on ne te payait pas. Tu faisais le contraire. Autrement dit, il y a eu de gains positifs. Eh bien, prostituée, écoute la parole d'Adonai. Ainsi parle le Seigneur Adonai, pour avoir dilapidé ton argent découvert ta nudité au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec tes ordures abominables pour le sang des fils que tu leur as donné, pour cela je vais rassembler tous les amants à qui tu as plu, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je vais les rassembler d'alentour contre toi et je vais découvrir ta nudité devant eux pour qu'ils voient toute ta nudité. C'est la mise à nu de la prostituée adultère, c'est l'apocalypse au sens propre, le dévoilement. Ok ? Bien. Je vais t'infliger ça, ils te lapideront, te perceront un coup d'épée, etc. Ça va être la chute de Jérusalem, l'abomination. J'assouvirai ma fureur contre toi, puis ma jalousie se retirera de toi. Et je m'apaiserai et ne me mettrai plus en colère. La colère de Dieu n'a qu'un temps. Colère jalouse, elle n'a qu'un temps. Elle va conduire à la réconciliation. Alors, réconciliation, qu'on va comparer avec ce qui est arrivé avec Samarie et Sodome, je ne vais pas avoir le temps de m'y attarder. Je les rétablirai, je rétablirai Sodome et ses filles, je rétablirai Samarie, je passe un peu afin que tu portes ton déshonneur, etc. Voyons tout de suite la fin du texte, verset 59. Car ainsi parle le Seigneur Adonai, j'agirai envers toi comme tu agis, toi qui as méprisé le serment jusqu'à violer une alliance. Mais, verset 60, mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. Retournement spectaculaire. On le savait déjà depuis Osée, mais tous ces châtiments qui vont beaucoup plus loin encore que chez Osée, parce que la faute a été plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison avec Samarie, et en toutes lettres, Ézéchiel dit « Jérusalem a été pire que Samarie, pire que Sodome. » Et néanmoins, Dieu va rétablir son alliance. Et toi, tu te souviendras de ta conduite et tu en rougiras quand tu accueilleras tes sœurs, les aînées avec les cadettes, et que je te les donnerai pour filles sans que j'y sois tenu par mon alliance avec toi. Donc il va faire mieux que ce à quoi il est tenu par son alliance. Vous voyez ? Car c'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis Adonai. Je rétablirai mon alliance. Donc tout ce discours sur la sanction, sur la rupture, c'est pour dire que l'alliance sera maintenue, au-delà des épreuves. On est ici au point, si vous voulez, de jonction entre ce qu'on appelle la littérature prophétique et la littérature apocalyptique. La littérature prophétique, c'est « repentez-vous, sinon le châtiment de Dieu s'abattra sur vous ». La littérature apocalyptique, et Ézéchiel est à la jonction des deux, la littérature apocalyptique, c'est « vous êtes soumis à des persécutions, mais tenez bon, car Dieu viendra vous sauver ». Vous voyez ? Là, ce qui est important, c'est autant le tenez bon que le vous serez puni. Voilà. Afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte et que dans ta confusion tu sois réduit au silence, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Adonai. Annonce d'un pardon futur, annonce d'un repentir futur. Vous voyez ? Et toute l'économie du salut va dans ce sens. Donc on peut dire que Dieu a une vie conjugale orageuse. Mais justement, cette vie conjugale, elle vise à, en quelque sorte, l'éducation de cette épouse infidèle. Bon, je vais avoir peu de temps, j'avais un lourd programme. Alors, la troisième référence, c'est Isaïe. Alors, il y a plusieurs passages dans Isaïe. Je n'ai pas photocopié les textes. Hélas, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, ça ne marchait pas. Enfin, j'arrivais pas à atteindre Isaïe sur mon ordinateur. Donc Isaïe est resté dans l'ordinateur. Ça arrive, problème technique. Et dans Isaïe, il y a plusieurs références à cette relation conjugale, mais elle va prendre... Alors, il va y avoir... vous savez qu'il y a trois Isaïe. Il y a Isaïe 1, qui est contemporain, donc qui est un prophète du Sud, mais contemporain de la chute du royaume du Nord, qui annonce la chute du royaume du Nord, qui annonce que le royaume du Sud va être pas loin de sombrer, mais qui va quand même tenir. Et ensuite, qui annonce que dans le futur, il y aura un Messie sauveur. Et c'est pour ça que le royaume du Sud a tenu. Parce qu'on a ici les héritiers de la promesse faite que David aurait une descendance et tout ça. Voilà. Donc ça tient un peu, voilà, avec des rustines. Bon. il y a Isaïe 2. Isaïe 2, et le prophète qui prophétise le retour de l'exil. Le retour de l'exil, donc les fils d'Israël, les juifs ont été déportés à Babylone, et Isaïe, donc postérieur, Isaïe 2, postérieur à Ézéchiel, annonce que le peuple d'Israël va être pardonné et revenir de Babylone, au bout d'une génération. Donc il annonce que Cyrus est un envoyé de Dieu, Cyrus le roi des Perses, et que c'est lui qui va rendre la liberté aux Israélites. Et donc on a très belle page dans Isaïe 2, donc c'est autour du chapitre 54, autour du chapitre 54 d'Isaïe, on a de très belles pages où Isaïe dit « Cri de joie, un cri de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse d'Adonaï. Alors ça avait commencé au chapitre 50, où Dieu pose la question, où est la lettre de divorce de votre mère ? Il n'y a pas de lettre de divorce. Vous avez été répudié de facto, mais il n'y a pas de lettre de divorce définitive. Donc c'était une séparation temporaire, ce n'était pas un divorce définitif. Voilà. Et là, on rappelle, donc là, Jérusalem, c'est une divorcée, dans Isaïe 2, à qui son mari va proposer la réconciliation. Et qui va recevoir son pardon. C'est une divorcée, pour faute, elle a trompé son mari abondamment, mais son mari lui annonce qu'il veut bien la reprendre, et il va la tirer de là où elle est, de ses difficultés. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Isaïe chapitre 54, le Seigneur t'a appelée, comme à la face de sa jeunesse qui aurait été répudiée. Donc c'est la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée. Un court instant, je t'avais délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, tu ne seras plus jamais répudiée. C'est fini. Tu as passé l'épreuve, tout ça c'est du passé, nous sommes réconciliés. Ce qui est très important, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est parole laissant entendre que Dieu aurait pu répudier son épouse, attention, ce n'est pas une répudiation définitive. C'est une séparation provisoire qui a pour but une réconciliation. Et dans Isaïe 2, chapitre 54, il y a l'idée que cette réconciliation est définitive. C'est très important pour comprendre la situation du peuple juif. Parce que le peuple juif, il reste définitivement allié à Dieu. Isaïe l'a dit. Et dans Isaïe 61, il va y avoir quelque chose de très nouveau. Isaïe 3, c'est un prophète donc encore postérieur. Donc à partir du chapitre 56 d'Isaïe, on entre vers une troisième figure qui va faire des prophéties concernant la venue du Messie dans le futur. Vous voyez ? Au chapitre 61, il y a un chapitre très important qui commence par « L'Esprit du Seigneur Adonaï est sur moi, car Adonaï m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. » C'est un texte très connu des catholiques, puisqu'il est, c'est le texte que Jésus lit à la synagogue de Nazareth lorsqu'il commence sa prédication. Vous savez, Jésus, dans l'évangile selon saint Luc, donc comme dans tous les évangiles, commence par se faire baptiser, puis ensuite il va au désert, et ensuite il commence à prêcher. Eh bien, le début de sa prédication, c'est chez saint Luc, c'est Jésus allant à la synagogue de Nazareth et lisant ce passage d'Isaïe. C'est très important parce que ici, celui qui parle, l'Esprit du Seigneur Adonaï est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction, c'est le Messie. Le Messie, Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Donc lire ce texte de la part de Jésus, c'est dire je suis le Messie. Ça va ? Et quand le Messie commence à dire, vous savez, le Messie est mal reçu dans sa famille, ça va vexer ses compatriotes qui vont donc vouloir le jeter du haut d'une falaise. Bon, voilà. Et du coup, ils accomplissent certaines prophéties dans ces traitements. Ben, bon, voilà. Donc, il se dit Messie en ces termes. Bon. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 61 d'Isaïe 3, je suis plein d'allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements, il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare des bijoux. Il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème. Donc ici, comparaison implicite avec l'époux. Et aussi avec la fiancée, bizarrement d'ailleurs. Donc le Messie, d'accord, est comparé à un époux et à une fiancée, étrangement. Car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi que le Seigneur Adonaï fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Ce passage se continue, chapitre 62. On ne te dira plus délaissé, et de ta terre on ne dira plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle, et ta terre épousée. Car le Seigneur trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera, et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Donc le Messie va être un époux pour le peuple. Alors le problème ici, c'est qui est l'époux ? Qui est l'épouse ? L'époux, ici, c'est plus exactement forcément Dieu. Et l'épouse, c'est plus tout à fait Israël. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va découvrir progressivement, c'est qu'en fait, cette épouse désigne plus large que Israël, le peuple de ceux qui vivent sous la loi. Et le chapitre 66 d'Isaïe, qui est la conclusion, dit bien que, en fait, le Messie va rassembler des hommes de toutes les nations. Des hommes de toutes les nations. Et parmi eux, il choisira des Lévites. Il établira des Lévites. Ce qui est impossible dans la loi juive, puisque pour être prêtre dans la loi juive, il faut être un descendant de la tribu de Lévi. Là, il y aura des sortes de Lévites issus des nations. Donc on sera dans un peuple dont l'unité ne sera plus la loi. Ce qui se dessine ici, en fait, c'est une nouvelle alliance qui n'est plus exactement l'alliance entre Dieu et Israël, alliance pourtant irrévocable, c'est ce que dit Isaïe numéro 2, chapitre 54. Là, on est dans une alliance entre le Messie, loin du Seigneur, et un peuple plus vaste qui englobe des hommes issus de toutes les nations. C'est ce qui va devenir l'Église. Ça va ? Et en fait, cette analogie nuptiale, on va la retrouver donc dans le Nouveau Testament, c'est le prolongement naturel de la chose, où le Christ, à plusieurs reprises, est présenté comme l'époux. L'époux de qui ? L'époux d'une épouse qui ne coïncide pas exactement avec l'épouse de Dieu du premier testament. C'est plus large. Voyez ? On va donc vers une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a une autre alliance. Il y a un autre mariage qui se joue. Voilà. Un autre mariage qui est supposé être plus heureux. Et donc c'est ce qui va conduire saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens. Voilà, chapitre 5, donc page 6, à expliciter les rapports du Christ à l'Église sur le modèle du rapport de l'époux à l'épouse. Voilà. Mais cette fois, c'est le mariage lui-même qui va changer de caractère. C'est-à-dire que le mariage va retrouver sa pureté initiale. C'est-à-dire un mariage indissoluble. Absolument indissoluble. Les historiens en conviennent maintenant, hein, l'idée que le Christ a affirmé l'indissolubilité du mariage et que les premiers chrétiens à la suite du Christ ont affirmé l'indissolubilité du mariage contre toutes les traditions de leur temps, hein, ça paraissait aussi énorme que de nos jours, c'est vraiment, on peut montrer par des moyens textuels, etc., qu'on est vraiment dans quelque chose d'indiscutablement issu de l'enseignement de Jésus de Nazareth. Voilà. En noyau dur des choses où on ne peut pas dire que c'est des inventions postérieures. Ça se montre, je n'ai pas le temps de le montrer. Donc là, vous avez une nouvelle alliance, voilà, et cette nouvelle alliance entre le Christ et son Église va modifier radicalement la manière de penser le mariage. Alors ceci va... Je vais essayer, mais je vais vraiment avoir très peu de temps, de résoudre les problèmes que j'ai soulevés. Le premier problème, c'est l'analogie nuptiale entérine-t-elle une vision patriarcale de la relation conjugale ? Non. Du tout. Vous n'y êtes pas. Vous êtes complètement à côté de la plaque. D'abord parce que si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, ça commence par « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». On est dans une réciprocité. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est le moins, puisque nous devons tous être soumis les uns aux autres. La réciproque, c'est « Marie, aimez vos femmes ». Aimez vos femmes, mais précisons, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré. Au sens où on se livre, on donne sa vie, on se fait tuer pour elle. Donc un mari, il est appelé à se faire tuer pour sa femme. On me dira, oui, mais il y a quand même une inégalité. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout. Complètement à côté de la plaque. En fait, il y a des textes, déjà dans l'Ancien Testament, qui désignent non seulement Dieu comme l'époux de... du peuple d'Israël, mais il y a des textes où Dieu est désigné comme l'épouse. L'épouse de qui ? L'épouse du sage, l'épouse de Salomon, l'épouse de celui qui a reçu la sagesse de Dieu. Vous avez ça dans la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon, qui n'est pas du tout de Salomon, hein, ça date de l'an 100 avant Jésus-Christ à peu près, vous avez un très très beau texte qui est prêtée à Salomon comme figure du sage, et où Salomon dit « J'ai demandé à avoir la sagesse pour épouse. » Mais qui est la sagesse ? La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est du moins une émanation de Dieu. On peut hésiter dans le langage. Mais en fait, pour un catholique, la sagesse, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Verbe éternel, la sagesse, qui se fait immanent au cœur de l'homme, et c'est ce Verbe éternel qui est désigné comme l'épouse. C'est l'intelligence. Alors ça peut être le Verbe éternel, ça peut être aussi l'Esprit Saint, on peut hésiter. Donc il y a des débats, je ne rentre pas dans le détail. Ça peut être le Verbe éternel, ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être le Verbe éternel et l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce qui de Dieu peut se rendre immanent au cœur de l'homme. Le Père est toujours transcendant, mais la sagesse et l'Esprit Saint sont les deux personnes de la Trinité qui peuvent se rendre immanentes au cœur de l'homme. C'est bon ? Et donc, ici, Dieu, en tant que sagesse, peut être présenté comme une épouse. Et là, il y a une très, très belle figure de ce que c'est qu'une épouse. Ce qu'il y a d'admirable dans une épouse, c'est sa sagesse. J'ai déjà vu des textes plus misogynes. En gros, ce que présuppose ce texte, c'est que une bonne épouse, c'est quelqu'un de très bons conseils, qu'un homme doit toujours écouter. Voilà. Un homme, un bon mari doit toujours écouter son épouse. Voilà. Et c'est pourquoi l'épouse par excellence, c'est Dieu en tant que sagesse. Et ce qu'est une bonne épouse, c'est une sorte d'incarnation de la sagesse. Ce que les femmes ont d'admirable, elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont capables d'une sagesse, elles ont un charisme de sagesse qui leur est propre et que les hommes doivent absolument écouter. Et donc, en fait, pourquoi, alors du coup, est-ce que ici on a cette analogie ? C'est pas parce que la femme serait inférieure à l'homme, c'est pas du tout le problème. C'est parce que la femme, elle a cette particularité que c'est dans son corps qu'elle donne la vie. Et donc si l'homme veut enfanter, il n'enfante que par le corps de la femme. Sans femme, un homme ne peut pas porter d'enfant, ne peut pas avoir d'enfant. Et ça nous éclaire sur la relation de Dieu à son peuple. Dieu veut avoir des enfants, mais ses enfants, il ne les aura que par la médiation de son épouse. Dieu veut avoir des enfants, mais on ne peut être enfant de Dieu que par l'Église. C'est-à-dire que Dieu s'oblige en quelque sorte à passer par la médiation de l'Église pour avoir des enfants. De même que Dieu s'est obligé en quelque sorte, en créant le monde, à ne créer d'êtres humains à son image que par la médiation des femmes. Le premier homme a été créé sans la médiation d'une femme, Adam, mais depuis, tous les hommes que Dieu crée, et il les crée, il ne les crée que par la médiation du corps de la femme. Vous voyez ? Et donc là, le rapport du Christ à la femme, le rapport du Christ à l'Église, ce n'est pas un rapport de commandement, de pouvoir, puisque justement l'Évangile abolit la fascination pour le pouvoir. C'est un rapport qui nous dit que Dieu n'enfante que par la médiation de son épouse de l'Église. C'est ça qui est important. De même d'ailleurs que Dieu n'a enfanté son propre fils que par la médiation du peuple d'Israël. Et de la fille d'Israël par excellence, Marie. Sans peuple juif, il n'y a pas de Messie. Sans Église, il n'y a pas de personne sauvée. Vous voyez ? Il faut passer par la médiation de l'Église. Donc cette analogie ici nous indique une médiation nécessaire. Il ne s'agit pas du tout d'entériner des préjugés patriarcaux que par ailleurs Saint Paul combat. Alors ça ne veut pas dire, n'en déduisez pas, que le sacerdoce doit être pour autant ouvert aux femmes. Pourquoi ? Parce que justement, le Christ a donné sa vie pour son Église. C'est le geste sacerdotal du Christ, c'est ce don de soi passant par la mort pour offrir le salut à l'Église. Ok ? Il faut mourir. De même, le mari, c'est celui qui doit mourir pour que sa femme vive, doit être prêt à se faire tuer pour elle. Hein, mesdames, si vous êtes à bord du Titanic, ce sera les femmes et les enfants d'abord, les maris restent à bord. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais dans la relation de l'époux à l'épouse, il y a une dimension sacrificielle. Le sacrifice doit se sacrifier, donner sa vie pour et par là sauver, contribuer au salut. Voilà. Messieurs, si vous voulez être de bons maris, soyez prêts à vous faire tuer pour votre femme. Voilà. En revanche, une femme ne doit pas se faire tuer pour son mari. Elle doit se préserver pour ses enfants, d'abord parce qu'elle peut avoir des enfants dans son propre corps, donc elle peut à la limite disposer de sa vie, mais pas de celle de ses enfants, s'il est marié, etc. Vous me direz, oui, mais après la peine de... Oui, d'accord, bon, allez, arrêtez de chicaner. Voilà, la règle est la suivante. Et donc, le sexe masculin, dans la fonction d'époux, si je puis dire, la fonction d'époux a une dimension sacerdotale, au sens où le sacerdoce est lié à ces dimensions d'offrir un sacrifice pour le salut. Ça va ? Et voilà. Et c'est pour ça que les hommes, c'est pour ça que le, enfin c'est ma responsabilité, hein, je l'assume, je pense que c'est très juste. Deuxième point, le problème théologique, je l'ai résolu en passant, il n'y a pas de substitution de la nouvelle alliance à l'ancienne alliance, le peuple juif reste marié à Dieu. Voilà, c'est un premier mariage, et le Christ est marié à l'Église, mais il ne faut pas oublier que le Christ a une double nature, nature humaine, nature divine, et donc, en fait, ce n'est pas la même relation. Donc, la nouvelle alliance ne prend pas la place de l'ancienne. Et donc, tout ce qui a été promis au peuple juif reste valable. La troisième chose que j'aborderai très vite, c'est le sexe dans la Bible. J'avais plein de choses à vous dire absolument géniales. Enfin, géniales, non, elles ne sont peut-être pas géniales, mais enfin, moi, elles me font plaisir. Sur le Cantique des Cantiques, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le Cantique des Cantiques, c'est un des plus beaux textes de la Bible, c'est un grand texte érotique. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous amener à rentrer avec moi dans ce grand, grand texte érotique plein de subtilités. Il faudrait peut-être une autre année pour ça, peut-être passer une année sur le Cantique des Cantiques. Voilà, vous avez l'époux, vous avez l'épouse. Vous devinez que ce texte est à la fois pleinement humain, il célèbre l'amour humain, dans sa dimension sexuelle en particulier. Hein, même si on n'a pas l'habitude de lire entre les lignes, on relève que le langage métaphorique, poétique, extrêmement riche et parle sans cesse de la sexualité dans toute sa splendeur. Et c'est également un grand texte spirituel. Parce que justement, le Cantique des Cantiques nous dit ce qu'est l'amour de Dieu. Et puis il y a des petites subtilités dans lesquelles je ne vous ferai pas entrer aujourd'hui, il faut en garder pour d'autres fois, c'est dommage. Voilà, ou c'est tant mieux, j'en sais rien. Il y a beaucoup de petites subtilités pour vous faire comprendre qu'il y a au moins 3 ou 4 interprétations possibles, complémentaires, profondes, et que ce texte érotique est sans doute un des textes les plus profonds de la Bible sur ce qu'est l'amour de Dieu. Je vous remercie de votre attention.